Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Marie est la mère qui, avec patience et tendresse, nous conduit à Dieu. Elle est la petite flamme dans la nuit, à l'heure de la Passion. Elle chemine aux côtés des fidèles dans la progression de leur foi. Le pape a fait ce samedi soir une catéchèse sur la Vierge, week-end marial au Vatican. Dévotion, veillée de prière. Ce dimanche, messe place Saint-Pierre en présence de la statue de la Vierge de Fatima. Outre cet événement spirituel, le pape a poursuivi ses nominations. Ce samedi, un Brésilien devient le numéro 2 de la congrégation pour les évêques, un poste stratégique. Dans cette émission, nous parlerons aussi du Maroc, où un chrétien vient d'être condamné pour prosélytisme. Avant de retrouver nos deux rendez-vous, le commentaire de l'Évangile et le livre de Dieu. Cette semaine, Jacqueline Barthes nous parle du féminin, un drôle de genre. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine en langue française de Radio Vatican. 150 000 personnes attendues au Vatican pour ce week-end sous le signe de la Vierge. Bienheureuse parce que tu as cru, c'est le thème de ces deux journées mariales organisées par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation dans le cadre de l'année de la foi voulue par Benoît XVI. Ce samedi matin, les fidèles étaient invités à se rendre en pèlerinage sur la tombe de Saint-Pierre au Vatican avant de participer en début de soirée à une célébration place Saint-Pierre, une prière mariale en cette station de la douleur de Marie. Le pape François a ensuite fait place Saint-Pierre une catéchèse sur la Vierge avant de bénir les fidèles, une catéchèse sur la foi de Marie. Bernard de Gottini.
Comment était la foi de Marie ? Pour répondre à cette question et selon son habitude, le pape choisit trois de ses caractéristiques pour en parler aux fidèles. D'abord, la foi de Marie dénoue le nœud du péché de la désobéissante et incrédule Ève. Par son oui, Marie a ouvert la porte à Dieu pour dénouer le nœud de l'ancienne désobéissance. Elle est la mère qui, avec patience et tendresse, nous conduit à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Le pape prend alors l'exemple d'une enfant qui, comme Ève, désobéit et ment à ses parents. Alors, dit le pape, leur relation a besoin d'être assainie de cette faute. L'enfant s'excuse pour qu'il y ait de nouveau harmonie et confiance. Quelque chose de semblable advient dans notre relation avec Dieu, explique le pape. En effet, quand nous ne l'écoutons pas, nous manifestons un manque de confiance en lui et cela, c'est péché. Un nœud dangereux se forme. Heureusement, poursuit-il, à la miséricorde de Dieu, rien n'est impossible. Ensuite, deuxième caractéristique, la foi de Marie donne chair humaine à Jésus. Dieu n'a pas voulu se faire homme en ignorant notre liberté, ainsi il a voulu passer par le libre assentiment de Marie, son oui pour prendre chair humaine. Ce qui s'est produit dans la Vierge, insiste le pape, se réalise aussi sur le plan spirituel en nous, quand nous accueillons la parole de Dieu avec un cœur bon et sincère et que nous la mettons en pratique. Sommes-nous conscients de cela ? S'interroge le pape. Croire en Jésus signifie lui offrir notre chair avec l'humilité et le courage de Marie. Enfin, dernier point, la foi de Marie est comme une marche. Toute sa vie, elle a suivi son fils. C'est lui la route, c'est lui le chemin. Marie nous précède, nous accompagne et nous soutient dans la progression de notre foi, un pèlerinage spirituel qui n'est autre que suivre Jésus. Et mettre nos pieds dans ses attitudes mêmes, humilité, miséricorde, proximité, mais aussi ferme refus de l'hypocrisie, de la duplicité, de l'idolâtrie. Le chemin de Jésus est celui de l'amour fidèle jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de sa vie. Et à l'heure de la Passion, la foi de Marie était la petite flamme dans la nuit. Et nous alors, comme Marie, la tenons-nous allumée, même au moment difficile ? Ce samedi soir, le pape a prié et remercié Marie, la mère, dit-il, de notre foi.
Et ce dimanche, François préside une messe place Saint-Pierre pour la journée de Marie. Après son élection, on s'en souvient, le pape avait demandé explicitement au patriarche de Lisbonne, le cardinal Policarpo, que son pontificat soit consacré à la Vierge. La consécration avait eu lieu le 13 mai dernier lors d'une messe marquant le 96e anniversaire des apparitions de la Vierge à Trois Petits Bergers. Ce dimanche, c'est d'ailleurs le jour de l'anniversaire de la dernière apparition de la Vierge à Fatima, le 13 octobre 1917. À cette occasion, la statue originale de la Vierge de Fatima est d'ailleurs présente à Rome. Selon la volonté du pape émérite, la statue de la Vierge de Fatima a en effet quitté fait exceptionnel le Portugal pour rejoindre en avion puis en hélicoptère le Vatican. Accueillie samedi par le pape François en personne à la maison Sainte-Marthe, la statue a fait étape dans la chapelle du monastère Mater Ecclesiae, où réside Benoît XVI, avant ensuite d'être transporté pour la nuit au sanctuaire marial du Divin Amour, à une dizaine de kilomètres au sud de Rome, pour que les fidèles puissent eux aussi la vénérer. Une prière du chapelet et une veillée qui a lieu simultanément dans plusieurs sanctuaires mariales à travers le monde, au Kenya, en Inde, au Japon, au Brésil, en Argentine, en Terre Sainte, en Belgique, à Banneux ou encore à Lourdes, en France. Et puis signalons qu'à l'issue de la messe de ce dimanche, le pape devrait prononcer un acte de confiance à la Vierge, un geste qui montre encore une fois combien le pape est attaché à la Vierge Marie. Dans l'Église, quelle place accorde-t-on à la femme? Peut-on encore renforcer cette présence? C'est ce que semble vouloir le pape François, à qui ce sujet tient beaucoup à cœur, il le dit. François a reçu ce samedi midi les participants d'un séminaire organisé à Rome par le Conseil pontifical pour les laïcs, à l'occasion des 25 ans de Mulieris Dignitatem, cette lettre de Jean-Paul II sur la dignité et la vocation des femmes, le premier document en réalité du magistère pontifical entièrement consacré à la question féminine. Dans son intervention ce samedi, le pape a interpellé l'Église et la société civile. Il ne faut pas réduire la maternité à un rôle social, car cette mission, dit-il, même si elle est noble, met de facto la femme de côté dans la construction de la société. Le pape met également en garde contre la promotion d'une sorte d'émancipation des femmes qui, pour occuper les espaces sous-traits au masculin, abandonnent, elles, le féminin avec les aspects précieux qui le caractérisent. Et le pape souligne à ce propos combien la femme a une sensibilité bien particulière pour les choses de Dieu, à savoir la miséricorde, la tendresse et l'amour que Dieu a pour nous tous. Un peu plus tôt, ce samedi matin, le pape a également reçu le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques. Une visite hebdomadaire, mais un peu particulière cette semaine, car François a nommé le nouveau numéro 2 du dicastère. Au poste stratégique de secrétaire de la Congrégation pour les évêques, François a nommé un prélat brésilien qu'il connaît personnellement depuis plusieurs années. Il s'agit de Mgr Ilson de Jesus Montanari, qui travaillait déjà au sein de la Congrégation et qui a été élevé au rang d'évêque ce samedi. Il succède à Mgr Lorenzo Baldisseri, que le pape a transféré au secrétariat général du synode. Et puis soulignons une autre nomination, François a nommé Mgr Diego Giovanni Ravelli, un Italien, chef de l'aumônerie apostolique. C'est un don précieux qui nous rend heureux. Le directeur de la Caritas de Rome remercie le pape François. Mgr Enrico Ferrucci a annoncé ce samedi que le pape avait mis en vente une moto Harley Davidson qui lui avait été offerte en juin dernier à l'occasion du rassemblement organisé à Rome pour les 110 ans de la marque américaine de moto. Le pape mettra aux enchères le véhicule à deux roues afin d'aider, avec l'argent récolté, la rénovation de la cantine populaire et du centre d'accueil Don Luigi di Liegro dans le centre de Rome. Un centre et une cantine qui accueillent quelques 1000 personnes par jour. Les travaux d'agrandissement des deux sites viennent de commencer, réouverture prévue pour Noël 2014. Mise en garde de la préfecture de la Maison Pontificale au sujet des prochaines canonisations des bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II le 27 avril 2014 au Vatican. La Maison Pontificale rappelle que cette célébration sera ouverte à tous ceux qui trouveront de la place sur la Via della Conciliazione et place Pie XII ou encore place Saint-Pierre. Il n'y a aucun billet à acheter, rappelle le Vatican, aucun billet à acheter auprès d'aucune agence ou opérateur touristique. Il avait été condamné à 30 mois de prison, à une amende de 1500 dinars pour prosélytisme chrétien. Un jeune Marocain originaire de la région de Fès a finalement été provisoirement libéré fin septembre en attendant son procès en appel. Des associations marocaines de défense des droits de l'homme se sont emparées du dossier, considérant cette décision de justice comme une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mgr Landel, évêque de Rabat, présidait cette semaine à Rome l'Assemblée générale de la CERNA, la conférence épiscopale des régions d'Afrique du Nord. Il nous livre tout de suite son point de vue sur cette affaire.
La question, c'est pas qu'il n'a pas été mis en prison parce qu'il s'est converti, il a été mis en prison parce qu'il a distribué des Bibles. Alors, c'est un chrétien, certes, mais ce n'est pas un catholique. C'est un évangéliste. Et donc, pour avoir donné des Bibles à des copains, donc il a été mis en prison et passible de 30 mois de prison et puis de, je sais pas, une certaine somme d'amende. Bon, alors là, ce qui est nouveau, hein, c'est que les associations des droits de l'homme sont montées au créneau en disant qu'est-ce qui se passe. C'est pas en étant chrétien que l'on peut aller en prison. C'est pas un motif dans le code pénal. Et puis, donc, c'est vrai que donner des Bibles, c'est un motif, mais ça n'a jamais été 3 ans de prison. Et ça n'a jamais été une amende si forte. Mais donc, si vous voulez, ça montre qu'on est toujours sur la corde raide. Et que c'est toujours... faut faire attention. Il y a des lois dans un pays, ben, faut les respecter. Bon, on me traite de naïf, on me traite de tout ce que l'on veut, mais moi, si... C'est vrai que si je fais comme ça, moi, je prends le premier avion. C'est pas que je prends le premier avion, on vient me prendre pour prendre le premier avion. Hein ? Bon, donc je crois qu'il faut, si on veut rester, il faut respecter les lois du pays, même si on n'est pas forcément d'accord. C'est le chemin que le Seigneur nous demande de vivre dans la gratuité la plus totale, en continuant à porter un regard aimant sur toutes ces populations, tous ces chrétiens comme tous ces musulmans, quelles que soient leurs conditions sociales ou conditions politiques. Et puis on avance, on chemine avec eux, on fait ce que l'on peut avec eux, et puis je dirais, c'est le règne de Dieu qui avance comme ça.
Des propos recueillis par Manuela à Fidji. C'est une approche originale de la question du genre et de la féminité qui nous est proposée dans le Livre pour Dieu de cette semaine. Sœur Catherine Aubin a interrogé Jacqueline Barthes sur son livre « Le féminin, un drôle de genre ». Ce livre parle du féminin d'une façon inédite, loin des discours didactiques sur le féminisme et sur la théorie du genre. Cet ouvrage nous fait entrer dans une contemplation de la femme au travers de son corps, de ses comportements. Son auteur, Jacqueline Barthes, est diplômée de l'École supérieure d'électricité de l'Institut d'administration des entreprises de Paris. Elle est également licenciée en théologie.
Jacqueline Barthes, le titre de votre livre, « Le féminin, un drôle de genre ». Vous avez voulu écrire ce livre pour qui ?
D'abord, ce livre, je l'ai écrit pour moi-même. Je fais une recherche sur comment comprendre l'identité féminine, ce qui depuis toujours me travaille personnellement, c'est de la comprendre au-delà des poncifs, dirais-je, enfin des évidences culturelles que personnellement, je crois que je collais avec elle, parce que je me comportais bien comme ce qu'on attendait de moi. Mais par contre, intérieurement, j'avais l'impression que pourquoi est-ce qu'on me demande ça et je veux bien le faire ? Pourquoi est-ce qu'on me définit comme ça et je suis à peu près, mais je fais semblant d'y être ? Et donc, j'étais un peu en réaction par rapport à tous ces a priori culturels et je voulais arriver à les comprendre dans une certaine forme, puisque j'ai une formation scientifique, je pourrais dire, je voudrais arriver presque à les démontrer.
Et justement, vous dites que vous avez une formation de scientifique et on sent dans votre livre qu'il y a une volonté d'avancer pas à pas à partir de l'observation.
Enfin, cette méthode, pour moi, ça a été plutôt une espèce de, je dirais, de rejet, de dépouillement par rapport à tout ce qu'on me donnait comme préalablement évident pour me retrouver vraiment partant de zéro, essayant de comprendre. Et donc, ça m'a conduite à me lancer dans une observation pure et simple du corps de la femme et puis de ses comportements tels qu'on les, généralement, on les décrit. Et alors, cette observation, je l'ai faite en prenant point par point des éléments d'observation. Alors, effectivement, on peut penser que c'est une démarche scientifique qui est carrément la démarche d'un chercheur qui regarde, qui comprend certaines choses, qui les analyse et puis qui, après, essaye de les assembler et voit surgir en lui une espèce, par intuition, une espèce de modèle qui les assemble et qui leur donne une cohérence. Et donc, ce modèle, il est proposé. Manque de chance, il m'a totalement convaincue, moi. Mais par contre, le féminin drôle de genre, c'est drôle dans le sens que c'est... Finalement, c'était comprendre quand même que dans le féminin, il y a profondément un côté qui est de don de soi-même, ce qui est quand même drôle, entre guillemets, et étonnant, enfin, pour aujourd'hui, où on a l'impression que l'accomplissement passe par la satisfaction de soi et très immédiate. Et au fond, ça m'a fait découvrir que la satisfaction de soi, elle passe par le don de soi, enfin, ce qui est totalement chrétien. Mais mon cheminement me paraissait un peu, comme je réagissais par rapport à ça donné d'emblée, le retrouver m'a paru magnifique, voyez.
Vous dites à la page 55, la femme structurellement est faite pour accueillir. Il y a un autre rapport aussi que vous faites dans votre livre, le rapport du don, de la femme avec le don et la femme avec le divin.
Oui, voyant combien la femme avait un organisme qui la soumet à la démaîtrise depuis toujours, au fond. L'exemple, c'est celui des règles où les femmes les subissent sans avoir de pouvoir dessus. Donc, il y a une espèce de soumission au rythme du temps qui m'a paru très étonnant et très particulier. Donc, j'ai pensé qu'on était formé, mois après mois, à une espèce de soumission, enfin de non-toute-puissance. Et donc, je pense que fondamentalement, il y a bien ancré chez la femme l'acceptation d'une non-toute-puissance vis-à-vis de l'univers et donc d'une démaîtrise. Donc, on est plus prête à comprendre qu'on peut recevoir de quelqu'un d'autre. Et puis, la femme est capable de recevoir Dieu. Et d'ailleurs, je retrouve l'intuition de Jean-Paul II dans sa lettre apostolique « La dignité de la femme » qui dit « Dieu confie l'être humain à la femme ». Moi, je n'ai pas osé le dire, mais je suis un peu arrivée au même endroit.
Jacqueline Barthes était interrogée par sœur Catherine Aubin. Il est temps maintenant de retrouver le commentaire de l'évangile du père Pascal Montavit, évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19.
L'évangile de ce jour nous montre comment les guérisons que Jésus opère sont le commencement d'un cheminement qui doit conduire à la foi et à une plus grande intimité avec le Christ. Voyons cela de plus près. 10 lépreux restent à distance de Jésus et s'adressent à lui de la manière suivante. « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En grec, ils appellent Jésus « épistata », c'est-à-dire « Maître ». Dans l'évangile selon saint Luc, les apôtres eux-mêmes appellent Jésus ainsi lorsque se déroulent des événements qu'ils ne comprennent pas, par exemple pour la pêche miraculeuse ou pour la transfiguration. Puis Jésus dit aux lépreux d'aller se montrer au prêtre. Un seul, voyant en chemin qu'il est guéri, fait demi-tour et se jette la face contre terre aux pieds de Jésus. Jésus dira que lui seul est venu rendre gloire à Dieu. La guérison de ce lépreux est donc bien accompagnée d'une illumination et d'une conversion. Il commence par se tenir à distance et par appeler Jésus maître, puis il finit par se jeter aux pieds de Jésus en rendant gloire à Dieu. Implicitement, l'évangéliste Luc laisse entendre que ce lépreux a reconnu la divinité même de Jésus. Sa guérison l'a conduit à un véritable chemin de foi. Il a trouvé celui qui donne la vie sur terre, mais aussi le seul qui peut donner la vie éternelle. Un autre enseignement essentiel de ce passage concerne la louange. Il est dit, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. La guérison conduit à la conversion et à la louange qui vient compléter cette guérison. Le lépreux fait demi-tour. Cette volte-face, ce changement de direction, est dans les évangiles un moyen classique de parler de la conversion. De plus, le lépreux guéri effectue ce changement de cap dans la louange. Et parce qu'il loue, Jésus peut lui dire « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Il est important pour nous aujourd'hui de réapprendre à louer Dieu. De notre temps, cela n'est plus naturel. Lorsque quelque chose d'extraordinaire arrive, on remercie habituellement la technique, la science, la volonté ou la détermination de l'homme. Mais qui est à l'origine de tout cela, sinon Dieu? Chaque chrétien devrait faire l'expérience de louer Dieu alors même qu'il traverse une situation difficile. C'est alors que l'on peut expérimenter la puissance de la louange, celle qui permet au Seigneur d'intervenir dans notre vie. Enfin, il est important de relever que Jésus dit seulement au lépreux qui est revenu les paroles suivantes « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Ce « relève-toi » s'exprime par le même terme qui est utilisé pour la résurrection de Jésus. C'est comme si Jésus disait « Ressuscite, ta foi t'a sauvé ». Les 9 autres n'entendront pas cette parole. Ils sont certainement purifiés de la lèpre, mais cette guérison ne les a pas conduits à reconnaître en Jésus le Messie et à participer à sa résurrection. En ce dimanche, entrons dans la louange du Seigneur qui est capable de nous guérir de toute lèpre. Même dans les situations les plus difficiles, celles où l'espoir semble absent, Jésus est là et il attend que nous nous tournions vers lui en le louant.
Et c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Un excellent week-end à vous tous.